Bonjour et bienvenue sur Radio Picasso. Louisa, Doudou et Noé de la classe de Terminale ES1 au micro. Aujourd'hui, nous recevons M. Justiniani, enseignant de sciences économie et sociales au LPO Aragon Picasso, pour évoquer le projet qu'il a mené avec notre classe autour de la conférence de Pierre-Rosan Vallon qui a eu lieu le jeudi 15 novembre à la Villa Gillette, ouvrir le festival de la chose publique 2018. Bonjour M. Justiniani.
Bonjour.
Quelles études avez-vous suivies ?
J'ai suivi des études de sciences économiques et sociales à l'université.
Et pourquoi les sciences économiques et sociales plutôt qu'autre chose ?
Alors au départ, j'étais en classe de... j'ai suivi la filière C qui correspond un peu au bac S. Et j'ai voulu faire une fac de maths sciences. Et là, ça n'a pas marché en maths sciences, mais il y avait une option qui était l'économie et qui m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis réorienté vers une fac de sciences économiques et sociales. Donc, je suis passé de Lyon 1, qui est une fac de sciences physiques, sciences biologiques, mathématiques, etc., à Lyon 2, qui est en fac de sciences économiques et sociales.
Cette option, elle était à Lyon 1, pardon, en même temps que les,
oui.
Que les maths ?
Oui, c'est ça. C'était une petite option complémentaire et qui m'a permis de découvrir cette matière que j'ignorais totalement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sciences économiques sociales au lycée du tout, même pas en seconde. Il y avait les filières dès la seconde, on allait en seconde C ou AB ou A, ou etc. Enfin, on se spécialisait dès la seconde, donc dans les filières scientifiques ou économiques et sociales ou littéraires. Et donc, je n'avais pas du tout découvert la matière au lycée. Mais cette matière m'attirait beaucoup par le côté culture générale, bien sûr, et voilà, le fait de s'intéresser à l'actualité. Voilà, c'est pour ça.
Et vous vous intéressiez aux sciences économiques avant le lycée ou pendant le lycée ?
Voilà, dès le lycée, oui. Je dirais dès le lycée, par la lecture de la presse, magazine, par exemple.
Est-ce que finalement, cela a correspondu à vos attentes
Oui, oui, en grande partie, oui. Quand même, oui, 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 oui. Ça correspondait bien à mes attentes, oui.
Avez-vous toujours voulu être enseignant ?
Non, à un moment donné, quand j'étais au lycée, avant de faire des sciences économiques sociales, je voulais travailler dans les eaux et forêts. Comme ingénieur ou technicien des eaux et forêts, parce que j'étais beaucoup attiré par la nature et la forêt. Enfin, voilà, la nature, le travail plutôt dans la nature. J'aimais pas trop la ville et toutes les contraintes qu'elle crée. Et puis, après la fac de sciences éco, j'envisageais de travailler, comme je m'étais spécialisé dans l'étude des institutions et politiques financières, j'envisageais de travailler dans la banque. Et puis, j'avais passé un entretien pour rentrer dans une banque, mais sans résultat, avec un résultat négatif. Et après, je me suis dit, finalement, je vais essayer aussi. L'enseignement m'a bien attiré à ce moment-là. À un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de transmettre un peu tout ce que j'avais appris. Je me suis dit que voilà, c'était ce qui m'intéressait dans l'enseignement.
Et ça vous plaisait pas pour une raison particulière, la banque ou...
Non, c'était plus pour... parce que j'avais suivi cette voie de formation. Là, et donc j'étais compétent dans ce domaine-là, plus que dans un autre.
Ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes au lycée Aragon Picasso, ici ?
Ah, je suis arrivé en 2002, donc ça fait un certain temps. Oui, ça fait combien de temps ?
Ça fait 16 ans.
16 ans, oui.
Et du coup, là, le lycée va se transformer, les lycées en général vont se transformer avec la réforme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous en pensez de cette réforme des lycées ?
Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, cette réforme des lycées, parce que je pense que ça va désorganiser un peu plus l'enseignement et que les conditions vont devenir plus difficiles. Par exemple, le fait que, vous voyez, les classes vont être calibrées à 35 dans chaque matière. Et je pense que cette réforme est faite un peu aussi pour économiser des heures de professeurs des postes pour voilà, parce que l'État doit faire des économies budgétaires. Et donc, on veut pas que... Par exemple, vous voyez, cette année, il y a 3 classes de première ES. On a créé une nouvelle classe de première ES parce qu'il y avait beaucoup d'élèves en première ES. À votre époque, si je puis dire, enfin l'année passée, il n'y avait que 2. Cette année, on a créé une troisième classe de 20 à 24 élèves. Je pense qu'avec la réforme, ils veulent éviter ça. Ils veulent vraiment serrer les élèves dans chaque classe, je pense.
Et du coup, l'enseignement serait moins efficace.
Oui, je pense, oui.
Nous allons faire une pause musicale dans cette émission. Pouvez-vous nous présenter le morceau que vous avez choisi ?
C'est un morceau de Mozart, un concerto pour violon de Mozart. Une œuvre de jeunesse.
On écoute. De retour avec M. Giustiniani pour évoquer la conférence de M. Rosanvallon du 15 novembre 2018.
Pouvez-vous nous présenter le projet que vous avez mené autour de la Villa Gilet ?
Alors, ce projet, en fait, a été élaboré à partir des mois de mai-juin de l'année passée. Des mois de mai-juin, la Villa Gilet nous a contactés, nous a proposé de faire ce projet. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs thèmes qui correspondaient bien au programme de sciences politiques de Terminal ES, de votre programme. Et donc, j'ai envoyé une candidature Et notre candidature a été retenue. J'ai su dès le mois de début juillet que la candidature était retenue. Et alors, il y avait plusieurs. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de conférences, beaucoup de possibilités. J'ai choisi Rosan Vallon parce que, peut-être parce que pour la personnalité qu'il représente, parce que c'est quelqu'un de connu, de très, qui est vraiment très important dans la discipline des sciences politiques en France. Il est vraiment. C'est comme un savant, en fait, et il enseigne au Collège de France. Vous pouvez aller voir, d'ailleurs, sur le site du Collège de France, il y a plusieurs de ses colloques qui sont présentés, et puis il a invité aussi d'autres sociologues que lui, et c'est très intéressant, ça va assez loin. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait de le choisir lui, parce que c'était très, un peu difficile aussi, vous avez vu, sa conférence était un peu difficile à suivre par moments. Donc il y avait des thèmes peut-être qui étaient plus simples, qui nous auraient plus convenu, peut-être, d'autres thèmes.
Mais vous connaissiez M. Rosan Vallon avant la conférence ?
Non, pas du tout. Enfin, juste de réputation un petit peu. J'avais vu quelques-unes de... Voilà, qu'il avait écrit un livre sur les inégalités avec Jean-Paul Fitoussi dans les années 80. Sur la crise de l'État-providence, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, voilà, la crise de l'État-providence dans les années 80.
Et vous disiez que certains aspects vous avaient paru... dur, un petit peu difficile d'accès, mais lesquels, par exemple ou...
Ben vous avez vu quand il parlait de Guizot, par exemple, qui avait évolué. Bon, ça, c'est des aspects historiques que je maîtrise mal, mais peut-être que vous connaissez mieux de par votre formation historique. Voilà, mais... Et puis, vous avez vu, il a parlé des situationnistes, de Raoul Van Eyghem, avec 68, ce qui s'était passé autour de 68 et tout ça. Et alors là, voilà, pour vous, c'est peut-être plus difficile que pour moi, parce que moi, bon, en 68, j'avais qu'une dizaine d'années, mais dans les années suivantes, on a quand même beaucoup parlé de ce qui s'était passé depuis, ça fait 50 ans maintenant, alors que pour vous, ça fait seulement, c'est seulement maintenant que vous, depuis quelques, peut-être 2-3 ans, que vous pouvez vous intéresser à l'histoire récente, parce que comme vous êtes assez très jeune, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est ça.
Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup plus de temps que vous pour lire des articles ou des livres sur mai 68, pour regarder des émissions de télévision ou écouter des émissions de radio sur mai 68 ou sur d'autres aspects de l'histoire récente. Alors que vous, bien sûr, vous avez moins eu le temps et l'occasion de découvrir tout ça.
Il faisait partir d'ailleurs beaucoup de choses de mai 68. Il disait que c'était l'origine de beaucoup de choses. Vous êtes d'accord, vous, avec ça ou...
Oui. Enfin, il me semble que c'est plus la période. Hein, qui, vous avez vu, il a dit les années 60. Et oui, pourquoi pas. Oui, enfin, oui, il me semble que ça peut être vrai. Oui. Sur le fait qu'il disait que jusque-là, on conquérait des droits collectifs qui passaient par le syndicalisme, etc. Et que depuis cette période-là, on veut aussi défendre le droit de l'individu. Le droit de l'individu à défendre son autonomie, son droit à intervenir, etc., à donner son avis. Voilà, il me semble que c'est ça son idée. Un aspect un peu libertaire, peut-être. Mais oui, c'est peut-être vrai. Vous avez vu, ils disent aussi la remise en cause des autorités traditionnelles. Par exemple, dans le couple, c'est plus l'homme qui décide et la femme qui doit demander à son mari la vie pour travailler, pour l'autorité parentale unique qui était uniquement confiée au père. Et maintenant, c'est plus partagé quand même. Et voilà, par exemple, aussi les relations entre enseignants et élèves, ou étudiants et professeurs, étaient moins hiérarchisées qu'autrefois. Il y avait une hiérarchie moins stricte et moins autoritaire qu'autrefois. Et,
il dialoguait également avec un philosophe, pardon, Serge Audier, c'est ça ?
Oui.
Vous trouvez que ça apportait beaucoup de choses, ce dialogue avec un philosophe, ou vous pensez que ça aurait pu se faire autrement ou...
Oui, je pense que j'aurais préféré qu'il intervienne directement lui, comme dans les colloques qu'on voit sur le site du Collège de France. Là, il me semblait que le philosophe, c'était plus une aide pour lui, parce qu'il pouvait rebondir comme ça, et puis de temps en temps laisser introduire les thèmes, le philosophe introduire le thème, et que ça aurait été mieux qu'il intervienne tout seul, en fait.
Et qu'est-ce que ça peut apporter, alors, une conférence comme celle-ci, à des étudiants comme nous
Ah ben c'est vous qui devez me le dire.
Mais vous, dans quelle démarche vous l'avez fait J'entends par là, qu'est-ce qui vous a fait dire que cette intervention de M. Rosan Vallon pouvait nous intéresser, nous faire apprendre des choses qui pourraient nous aider dans notre vie de tous les jours, pour le programme, pour...
Ah, alors oui, ben, alors vous apprendre des choses, oui, bien sûr, vous apprendre des choses, parce que vous avez vu, c'est quand même très riche, il y a beaucoup de connaissances, et puis il envisage les choses d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique, etc. Vous avez vu aussi que finalement, quand on veut étudier les problèmes politiques, on est obligé de faire référence aussi aux problèmes économiques et sociaux. Vous avez vu à travers les chapitres que vous avez résumés du livre « Refaire société », dont il a écrit l'introduction, les chapitres que vous avez, donc, que vous avez résumés, qu'on a mis sur le site de la Villa Gilet. Et donc, voilà, et on voit bien comme ça que finalement, l'économie, la sociologie et la science politique ressortent un peu du même domaine d'études et ont des liens entre elles. Oui, je pense que ça peut vous apporter dans votre formation de citoyen, pour découvrir le monde, le monde, les idées actuelles aussi, leur soubassement historique, économique et sociaux.
Et vous avez appris des choses pendant cette conférence ?
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ma formation au départ est économique. Et elle n'est pas politique. Je n'ai pas fait d'institut d'études politiques ou de sciences politiques à l'université. Et j'ai étudié les sciences politiques en l'enseignant à vous. Auparavant, il y avait l'option sciences politiques en première ES. Et donc, moi, j'apprends chaque fois des choses, oui, en enseignant cette matière. Et là aussi à la conférence, bien sûr. Bien sûr, oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ailleurs de prendre en plus de DSES cette matière des sciences sociales et politiques ?
Eh bien, je trouve que c'est un bon complément, parce que l'économie, on la voit un peu de façon désincarnée parfois. On voit les mécanismes, on voit la théorie, on voit pas les ressorts politiques. Par exemple, une politique keynésienne ou une politique libérale, elles ont ça correspond à des orientations politiques aussi. C'est-à-dire que c'est certains courants politiques qui vont plutôt prôner une politique keynésienne et d'autres qui vont prôner une politique libérale, par exemple. Et il me semble que c'est un bon complément de formation des sciences économiques et sociales.
Donc l'économie et la politique, pour vous, sont liées par...
Oui, pour moi, elles sont liées, oui.
Donc pour finir, une dernière question. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, à nous, à votre avis, en tant qu'étudiants, pour réussir de bonnes études, en tant que professeur ?
Ah, c'est... Oui, moi aussi, il y a une chose. Alors, bon, bien sûr, travailler régulièrement, vous intéresser à ce que vous faites, aux études que vous faites, mais aussi vous intéresser autour, c'est-à-dire, par exemple, lire la presse, lire les magazines d'actualité. Regarder à la télévision et à la radio et essayer de choisir des émissions qui vont plus dans ce domaine-là, plus dans le domaine économique ou social ou politique, et de pas en rester aux émissions de télé-réalité ou autres.
Monsieur Justiniani, nous arrivons à la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
J'espère que ça vous aura apporté cette conférence et ce travail autour de Pierre-Rosan Vallon. Mais c'est à vous de me le dire aussi.
C'est le cas.
D'accord.
Merci, Monsieur Justiniani, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à Noé et à Doudou. Nous allons tout de suite écouter le reportage que nous avons réalisé lors de la conférence du 15 novembre 2018 de Monsieur Rosan Vallon. Je suis actuellement à l'IEP de Lyon, avenue Berthelot, pour assister à une conférence avec l'historien Monsieur Rosan Vallon. Alors maintenant, je vais interroger des élèves. Alors Jeanne, pourquoi es-tu venue ce soir ?
Parce que je suis particulièrement intéressée par la politique et que je voulais rencontrer Monsieur Rosan Vallon, qui est un historien, et que je voulais me déplacer, voilà, tout simplement.
Merci.
Moi, je suis venue aujourd'hui pour écouter à Monsieur Rosan Vallon, qui est un très bon historien et qui fait partager ses idées sur la société, que j'ai bien apprécié évidemment, et nous avons étudié un de ses livres et que j'ai aussi trouvé très bien, et je pense que l'écouter nous apportera beaucoup de choses.
La première chose, c'est que comme beaucoup de personnes ici probablement, et beaucoup de citoyennes et citoyens français, je me sens dans une situation un peu de désarroi, de désenchantement, de perplexité. Et j'ai senti que si l'on voulait réarmer le présent, il fallait purger la morosité, il fallait purger la mélancolie, il fallait purger le désenchantement. Et comment ? Eh bien, en refaisant, en regardant dans le rétroviseur, pour essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Et comment, au fond, effectivement, les enthousiasmes de toute une période qui ont été très mobilisateurs, se sont peu à peu étiolés. Et là, la première chose qui me semble importante de rappeler, c'est justement, vous y avez brièvement fait allusion, c'est que les années 60 et 68, ça n'est pas simplement mai 68. On a beaucoup célébré mai 68, et moi je n'ai absolument pas voulu que mon livre soit publié en mai 68. En mai 68, tous les livres ont été des livres d'anciens combattants, des livres de souvenirs, et des livres qui voyaient le mouvement de mai par le petit bout de la lorgnette. Par les barricades du quartier latin, par des mouvements immédiats. Alors qu'il faut comprendre 68 comme un moment de cristallisation dans toutes les sociétés industrielles, pas simplement en France. Parce que même du point de vue du mouvement étudiant, il ne faut pas oublier que le mouvement étudiant avant 68 et en 68 était très important aux États-Unis, en Italie, au Mexique, dans bien des pays du monde. Et que 68 doit davantage être compris comme un moment de maturation et de basculement des civilisations, des sociétés industrielles, et pas simplement comme un épiphénomène qui aurait concerné d'abord la France. Et ce basculement, c'est lequel ? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'après un moment où tout le progrès social a été conçu comme une avancée collective à travers des idées économiques comme celle de nationalisation, à travers la progression du syndicalisme, il y a eu aussi l'aspiration à passer à une autre étape de l'émancipation où, au fond, ce qui compte, c'est que chacun également puisse devenir quelqu'un d'autonome. Et même à l'intérieur, très longtemps, le marxisme était justement la doctrine, pourrait-on dire, de l'émancipation à l'ancienne. Mais on a découvert dans les années 60 que Marx lui-même, dans des textes nouveaux que l'on publiait à cette époque, était aussi justement l'auteur de la réflexion sur l'autonomie, sur l'individu, sur la singularité. Quand dans les fondements de la critique de l'économie politique, les Grundrisseux, un livre auparavant inconnu de Marx, qui paraît justement en 68, Marx dit « l'avenir du communisme » ça n'est pas la société enrégimentée, c'est la société où chacun puisse être l'artiste de sa propre existence. D'un certain point de vue, il n'était pas loin de ce que disait, vous citiez Van Engel tout à l'heure, sur le but est de rendre sa vie intéressante. Et au fond,
passionnante.
Cet idéal dont 68 est devenu, le terme 68 est devenu un petit peu le symbole, il s'est décliné dans trois domaines. Et ces trois domaines ont connu ensuite une histoire qui était très différente. Le premier domaine, c'est d'abord sortir d'un état de relations sociales qui était marqué par des formes de hiérarchie très, très fortes. Et les rapports hommes-femmes étaient le premier exemple. N'oublions pas qu'en 68, les femmes avaient encore besoin de la permission du mari pour ouvrir un compte en banque. Bon, qui n'avaient pas l'autorité paternelle ou maternelle sur les enfants. Donc, La première traduction de l'idéal d'autonomie, c'était de sortir du carcan hiérarchique. Dans les rapports entre hommes et femmes, dans les rapports entre étudiants et professeurs, dans les rapports dans l'entreprise elle-même, partout il y a eu ce souffle, je dirais, de conquête de l'autonomie et de mouvement anti-hiérarchique. Alors ça, c'était la première dimension. Et je dis tout de suite une chose qui est remarquable, c'est que cette dimension, elle est restée vivante. Parce qu'aujourd'hui, la question de définir des relations qui ne soient plus hiérarchiques, mais des relations d'égaux dans la société, elle est toujours vivante. La question du rapport homme-femme, elle n'est pas terminée. C'est moins que l'on puisse dire. Et donc, toute cette question qui était traduite par une aspiration à un nouveau régime des droits des personnes, eh bien, il reste toujours présent. Il reste toujours présent, il dessine toujours un avenir. Et là, il y a une continuité, je dirais, de cette révolution des droits. De cette révolution de l'attente d'autonomie, de l'attente de rapports égalitaires. C'est ce que disait un philosophe comme John Stuart Mill, il disait « L'égalité entre hommes et femmes, c'est d'abord apprendre à vivre en égaux. » Eh bien, apprendre à vivre en égaux, ça passe aussi par des institutions, et c'est toujours quelque chose d'actualité. Mais il y avait deux autres domaines dans lesquels se déclinait cet idéal d'autonomie. le premier de ces autres domaines, c'était tout simplement dans la vie démocratique. Que la vie démocratique ne soit pas simplement, c'est le titre après tout de cette manifestation, ne soit pas simplement le fait de confier ses intérêts à quelqu'un d'autre, d'être en quelque sorte soumis à des organisations, mais de pouvoir dire son mot. Que la démocratie soit définie pas simplement comme le régime où on est représenté parce qu'on a des bons maîtres qui vous représentent, mais que la démocratie soit le régime où on ait son mot à dire, son mot à contrôler, et pas simplement au moment électoral. Et donc cet idéal-là, il s'est incarné au moment de 68, mais je dirais des années 60 en général, et pas simplement en France, une fois de plus, à travers un idéal de démocratie plus directe. De démocratie, on a commencé à parler progressivement de démocratie participative. Pas tout de suite en 68, parce que le terme démocratie participative était en 68 appartenu au vocabulaire gaulliste. Donc il n'était absolument pas présent dans le langage étudiant et dans le langage social de l'époque. Mais c'est venu plus tard. Et puis l'autre domaine dans lequel c'était décliné, ben, c'est tout simplement l'émancipation du travail. L'émancipation du travail, qui n'est pas simplement la régulation du salariat, mais l'aspiration à une autonomie du travail. Alors si on regarde ces différents plans, on voit bien que sur la question des droits, je dirais, l'élan a été donné et l'élan continue. Et l'épisode le plus récent et le plus spectaculaire, ça a quand même été celui du mariage pour tous. Je dirais que sur ce plan-là, la question des droits, elle n'est pas terminée. La question de l'égalité réelle entre les citoyens, elle est encore devant nous, comme un projet, un programme et un effort à réaliser.
Alors, la conférence vient de terminer. J'ai Noé à côté de moi qui va nous donner ses impressions sur cette conférence. Alors, bonjour Noé, que pensez-vous de cette conférence ?
Bah, c'était bien intéressant. Il faut parler fort, me dit Louisa, c'était bien intéressant. Je trouve que les thématiques abordées étaient pertinentes, pourquoi pas, intéressantes, qu'elles amenaient des réflexions qui étaient importantes, même si je trouve qu'il pointait beaucoup de problèmes sans proposer beaucoup d'alternatives.
De solutions, oui, je suis totalement d'accord avec
vous. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et j'ai surtout bien apprécié les questions sur l'émancipation du travail, de l'autonomie des individus.
Des sujets qui vous ont marqué ?
Oui, très. Et j'avais déjà étudié le livre que M. Giustiniani nous avait passé en classe. Et franchement, je ne suis pas déçue. C'était vraiment bien. J'ai bien apprécié.
Pour une question, hein.
Pensez-vous que ce soit utile que des élèves de lycée comme nous viennent assister à des rencontres de ce type ?
Ben, je pense qu'il est très important que des lycéens comme vous, c'est formidable que vous participiez à une réunion comme ça, mais c'est aussi très important de lire et puis d'en discuter. Et d'en discuter entre vous, d'en discuter peut-être si vous avez dans des cours d'histoire avec votre professeur. Parce que la vie démocratique, c'est des citoyens plus informés et des citoyens qui discutent ensemble. Et bien voilà, ben vous commencez à le faire. Vous informez et vous discutez ensemble.
Merci. Voilà. On a une autre question.
C'est la dernière là.
Oui. Comment concilier d'une part l'extension des droits sociaux et d'autre part les incitations à l'effort au travail ?
Les incitations
à l'effort au travail.
Je dirais ça, c'est le grand problème. C'est qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'individu et qu'est-ce qui doit tenir, je dirais, au fait qu'il y ait une solidarité dans la société. Il faut à la fois ouvrir des chances supérieures à chacun, mais en même temps qu'il y ait des modalités de la redistribution, que chacun puisse recevoir quelque chose. Si on ne valorise simplement la responsabilité, ben on dit ceux qui ne sont pas capables, tant pis, on les laisse tomber. Non, la démocratie, elle doit marcher sur les deux pieds, de la responsabilité individuelle et de la solidarité collective. Et quand on veut simplement la faire fonctionner sur la base de la responsabilité individuelle, sur la base du mérite, disons, de la méritocratie, eh bien, c'est une démocratie qui fait du cloche-pied, disons.
Merci.
Voilà.
Merci. Au revoir.
Vous retournez à Givors, donc ?
Oui, ça. Ah, bon,
bonsoir, monsieur Giustiniani. Du coup, on vient de sortir de l'entretien entre monsieur Rosan Vallon et un philosophe. Donc on voudrait savoir ce que vous en avez pensé un petit peu et ce qui vous a poussé à nous amener ici.
Ah, c'était le vous faire découvrir un intellectuel qui réfléchit sur la politique actuelle de façon assez profonde. Et j'espère que la conférence vous a plu. Que ça, je sais qu'il y a eu des passages qui étaient difficiles à comprendre et à suivre parce qu'il fait référence à tout un passé de politique, d'histoire, etc. que nous ne maîtrisons pas forcément bien, moi non plus. Hein, je ne connais pas tout ce qu'il a dit, tous les auteurs que lui a lus. Moi, je ne les ai pas lus, qu'il a cités, etc. Mais j'espère que ça... Voilà, c'était pour vous faire découvrir ce monde assez vaste, finalement. Des idées politiques, etc.
Pardon. Pour vous enrichissant, j'ai dit.
Oui, voilà, c'est ça, pour vous enrichissant. J'ai pensé que ça serait enrichissant pour vous. Après, j'espère que ça vous a plu.
Et du coup, vous pensez que c'était enrichissant pour nous ?
Je pense que c'était enrichissant pour vous par rapport au programme aussi de sciences sociales et politiques et tout ce que vous allez faire en histoire, puisque Pierre Rosan Vallon est tout d'abord un historien.
D'accord, merci, monsieur Lancelot.
La conférence est maintenant terminée. Shiraz, qu'as-tu pensé de cette conférence ?
En fait, cette conférence a été très intéressante du point de vue du livre de Pierre. Il nous a expliqué le but de son livre, qu'il voulait une démocratie refondée. Et voilà, on en a appris encore plus niveau politique. Et voilà.